Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant derrière. On l'a tout devant derrière. Tout à fait, on l'a tout devant derrière.
Ok.
Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Dans la chronique précédente, je vous avais parlé de notre arrivée dans la mer de Ross après la traversée de l'océan Austral depuis la Nouvelle-Zélande. Pour pénétrer dans cette mer, il nous avait fallu trouver un passage parmi les glaces dérivantes et de gros icebergs. Aujourd'hui, nous avons atteint la barrière de Ross. Ce sont d'immenses falaises de glace continentale qui nous barrent la route, donc qui marquent le point le plus sud de notre mission, par 77 degrés 30 minutes de latitude sud, ce qui fait environ 1400 km à vol d'oiseau du pôle sud. La mer de Ross est unique en son genre en termes d'écologie et de climat. Je vous donne quelques exemples. D'abord, son large plateau continental. C'est le plus étendu de l'Antarctique, avec des profondeurs inférieures à 1000 mètres sur une surface d'environ 1 million de kilomètres carrés, c'est-à-dire deux fois la France. Ensuite, la barrière de Ross, devant laquelle nous sommes, qui s'étend sur une longueur de 800 km et qui est la frontière entre la mer et une vaste plateforme glaciaire, en anglais ça s'appelle le Ross Ice Shelf, qui couvre une surface de 500 000 km² vers le sud jusqu'au mont Transantarctique. Donc les monts Transantarctiques, qui sont la limite de la mer de Ross vers le sud, ils sont à environ 500 km du pôle sud. Cette plateforme, donc grande comme la France, peut atteindre 600 mètres d'épaisseur de glace, mais elle flotte sans toucher le fond. Donc, elle se brise en permanence le long de sa frontière avec la mer, et c'est elle qui génère ces immenses icebergs que nous avons croisés tout au long de notre trajet. Comme la mer de Ross se situe très au sud du cercle polaire, entre 70 et quasiment 80 degrés sud, le jour y est continu pendant plusieurs mois d'été, donc c'est notre cas en ce moment, et la nuit polaire dure plusieurs mois d'hiver avec une obscurité totale. Autre particularité météorologique de cette mer de Ross, les régimes de vent katabatiques. Ce sont des vents de secteur sud très violents qui sont générés par des masses d'air froid qui dévalent des montagnes transantarctiques, se refroidissent encore plus en traversant la plateforme glaciaire pour finalement débouler sur la mer. On s'en est pris plusieurs fois pendant la mission, ça monte brutalement à 50-60 nœuds et je peux vous garantir que ça rigole pas. Une conséquence de ces forts vents du sud, qui sont fréquents tout au long de l'année, c'est qu'ils cassent la banquise dès qu'elle se forme, et qu'ils repoussent les glaces dérivantes vers le nord, donc. Et donc le milieu de la mer de Ross est libre de glace, libre de banquise en permanence, même en hiver, c'est ce qu'on appelle une polynie. Et dans cette polynie, où donc l'eau de surface est en contact permanent avec l'atmosphère, avec les vents, on rencontre d'importants courants verticaux et horizontaux des masses d'eau, et notamment la remontée des eaux de fond plus froides, plus denses et riches en nutriments vers la surface de la mer, fait que cette eau riche remplace les eaux de surface pauvres en nutriments. Donc les régions de remontée d'eau favorisent la floraison du phytoplancton, ce qui permet une plus grande diversité d'organismes, du coup, dans toute la chaîne alimentaire, depuis les petits poissons jusqu'aux baleines. En raison de tous ces facteurs écologiques et climatiques uniques, la mer de Ross est donc un endroit idéal pour étudier l'évolution des espèces marines et pour déterminer les effets biologiques du réchauffement climatique. C'est aussi la raison pour laquelle cette mer a été déclarée aire marine protégée en 2016 et que nous sommes ici pour en faire le bilan au bout de 10 ans. Donc, dès notre arrivée dans cette mer, nous avons commencé notre campagne de mesure des différents paramètres physico-chimiques et biologiques qui la caractérisent. Et Emmanuel Boss, un chercheur océanographe franco-américain, va maintenant nous en parler.
Emmanuel Boss, professeur d'océanographie à l'Université du Maine aux États-Unis, spécialiste de ce qu'on appelle l'optique marine. Et l'optique marine, c'est le domaine qui essaye de comprendre comment est-ce que les propriétés optiques de l'eau changent, ça veut dire l'absorption, l'atténuation, la couleur de l'eau comme on la voit de l'extérieur, et comment elles sont liées à ce qu'il y a dans l'océan. Et la raison pour laquelle c'est utile, c'est que la seule manière dont on peut avoir une image journalière de l'océan, là où il n'y a pas de nuages, c'est avec des satellites qui observent la couleur de l'eau. Ils mesurent l'intensité de la lumière qui arrive au satellite au-dessus de l'atmosphère. Et avec ça, si on est capable de l'interpréter, ce signal, puisqu'il est lié à la matière qu'il y a dans l'eau, on peut apprendre comment cette matière est distribuée dans l'océan et, quand on la regarde dans le temps, la dynamique de cette matière. Alors, est-ce que ça croît, est-ce que ça décroît, comment est-ce que c'est lié à d'autres processus qui se passent en même temps.
Est-ce que tu peux nous décrire plusieurs types d'expériences que tu fais ici?
Oui, on fait tout un tas de mesures. On mesure d'abord la lumière qui émane de l'eau et qui arrive à l'eau. On a une bouée qui mesure ça en une très haute fréquence du point de vue de lumière. Et ces mesures sont importantes parce qu'elles sont directement liées aux mesures d'un nouveau satellite que la NASA a mis dans l'espace, qui s'appelle PACE. Ça fait presque 2 ans qu'il est en espace et il mesure aussi avec une gamme de couleurs très petite, et on espère avec ce satellite ce qu'il y a de pouvoir séparer les espèces différentes qu'il y a dans l'eau de phytoplancton. Le phytoplancton, c'est la base de la chaîne alimentaire marine. Utilise la lumière pour faire de la matière organique qui est bouffée par le zooplancton, qui est bouffée ici par le krill, des poissons, etc., jusqu'aux baleines. Donc, en ayant beaucoup de couleurs différentes, on espère être capable de différencier les différents pigments que ces phytoplanctons ont. Et pour être sûr que ce que mesure le satellite est bien fiable, il faut faire des mesures dans l'eau qui sont similaires à ce que mesure le satellite. Et comme ça, on pourra dire absolument le traitement qui est fait avec les données spatiales marche. Donc ce traitement est important parce que plus de 90% du signal mesuré au satellite vient de l'atmosphère. Donc même si on a 1% de fiabilité en enlevant le signal atmosphérique, ça fait 10% d'incertitude pour le signal marin. Donc il faut le faire très bien. Et les mesures qu'on fait sur ce bateau nous permettront de voir à quel point on fait bien ce processus d'enlever le signal atmosphérique dont on n'est pas intéressé, les gens de l'atmosphère le sont, et avoir un signal marin qui est lié au phytoplancton. Maintenant, en même temps, on mesure le phytoplancton aussi. On fait des mesures, on a des filets dans l'eau qui prennent des échantillons. Ces échantillons, on a 2 microscopes à bord qu'on utilise pour voir ce qui est dans l'eau, dans une certaine gamme de taille. C'est le Curiosity et le planctoscope. Et en même temps, on utilise les mêmes échantillons, les filtres, pour avoir de l'information sur l'ADN de qui est dans l'eau. Et donc avec ça, on a vraiment toute la gamme de phytoplancton et les zooplanctons et avec l'ADN environnemental, même des informations sur les mammifères, les manchots et autres organismes qui ont laissé leurs traces dans l'eau.
Est-ce que tu peux nous montrer une image ou deux?
Absolument. Ce qu'on a ici, c'est un outil très utile parce qu'il nous donne au jour près les informations sur les satellites qui ont passé les prises de mesure. Est-ce qu'on peut voir bien? Ça a commencé le 7, le 6 c'était pas encore clair. Ah, le 6 était bon, pardon. C'était le 5 ou le 4 là. Il n'y a pas de luminance. 5, il fait encore. Il y a beaucoup de nuages. Et le 6, on commence à voir l'eau depuis l'espace. Et ça devient de mieux en mieux. Ça, c'est le 8, regardez ça. Et le 9 aussi. Et tous ces jours-là, on a pris des mesures. Et ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle une image en rouge, vert et bleu. C'est comme si nous, on était on regardait l'eau depuis le satellite. Maintenant, on peut mettre dessus l'algorithme de chlorophylle de Pace, ça veut dire l'intensité de ce pigment qui est dans tous les phytoplanctons, et on voit bien qu'il est bien, il marche bien dans ces eaux-là, les valeurs sont raisonnables, et dans la région dans laquelle on était. Donc c'était bien qu'on était dans l'eau à faire ces mesures, parce qu'on pourra les coller à celles du satellite, et on pourra voir à quel point les données satellitaires collent bien avec les données qu'on a fait sur le bateau.
Ok, et ce matin, Emmanuel, on a fait une station CTD. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ?
Ce matin, on est passé en face de la plateforme de glace, qui est de longueur de 800 km. Et on a fait ce qu'on appelle une station, ça veut dire qu'on a arrêté le bateau. Et derrière le bateau, on a descendu une sonde qui mesure la température, la conductivité et la pression. Et avec ça, on calcule la distribution de salinité et température, et de ça, on calcule aussi la densité de l'eau derrière le bateau. On a à peu près 500 mètres de câble, on est probablement descendu jusqu'à 400 avec le mouvement du bateau. Et avec ça, on peut voir l'influence de ce plateau de glace sur la densité de la mer. Il faut dire qu'ici, l'eau est plutôt chaude, on doit être dans les moins 0,5 degrés, moins 0,7, tandis que dehors, il fait moins 8, moins 7. Et donc, il y a une grande différence de température qui a à voir avec le fait que pour changer la température de l'eau, il faut énormément d'énergie. Il doit y avoir beaucoup d'eau qui descend et qui monte autour de nous. Des mouvements très intéressants, justement, pour comprendre le flux de chaleur entre l'atmosphère et l'océan.
La campagne océanographique en mer de Ross a donc vraiment commencé, comme nous l'a expliqué Emmanuel. Dans la prochaine chronique, nous aborderons l'île de Ross, où notre biologiste Yves nous fera découvrir la plus importante colonie de manchots de la région. Donc, à bientôt, chers auditeurs. Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant derrière. Voilà tout devant derrière. Tout à fait, on l'a tout devant derrière. Ok. Voilà, j'ai l'air de... Ouais, Sergio, c'est clair, c'est ça ?